partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, sur Canal Académie, nous allons évoquer la présence et le rayonnement d'André Malraux en Inde. Première partie, l'influence française en Inde, un précurseur, André Malraux. Si certains croient que l'influence de la France est très faible en Inde, ils se trompent. Il est vrai que ce vaste pays dont la population est énorme a été très influencé par le monde anglo-saxon. Il n'empêche que 450 000 élèves y apprennent le français chaque année. Dans les universités, 35 000 étudiants suivent des filières supérieures dans notre langue, tandis que les alliances françaises, elles, accueillent plus de 26 000 étudiants. Ces chiffres n'ont donc rien de marginal. En Inde, précisons-le, plus de 20 000 professeurs de français encadrent élèves ou étudiants. Dans ce pays, comme dans une bonne partie du monde, parler le français est un choix, un libre choix. Il exprime le refus de céder aux sirènes de l'uniformité. Dans ce désir de français et dans cet amour pour le français et la France, un homme a joué un rôle exceptionnel. Il s'agit d'André Malraux. Dans cette série de deux émissions, nous évoquerons d'abord la compréhension et la fascination que Malraux avait pour ce pays si différent du nôtre. Et ensuite, dans une deuxième émission, nous insisterons sur ses rencontres et sa relation avec Nehru. L'Inde est sans doute le pays lointain où Malraux s'est rendu le plus souvent en 1930, 1931, 1958, 1965, 1973 et 1974. C'est la civilisation orientale qui l'a le plus attiré. Et pourtant, il n'a pas écrit un seul roman sur l'Inde. Quel paradoxe! Comment cet agnostique a-t-il été séduit par un pays profondément mystique qui s'est construit sur deux religions, le bouddhisme et l'hindouisme? Nul doute qu'il a été fasciné par le phénomène de la non-violence. Il croyait à l'avenir de l'Inde. Ce début du troisième millénaire est-il en train de lui donner raison? Grâce à des écrivains passeurs comme Gurdjieff, Romain Rolland et André Gide, il avait lu Tagore, le Tagore de l'offrande lyrique et les grands textes sacrés hindous. Il admirait profondément Gandhi, qu'il n'a jamais rencontré, le seul révolutionnaire qui n'eut jamais de sang sur les mains, après Lénine, Staline, Fidel Castro et tant d'autres, sans même parler d'Hitler. De 1936, date de la première rencontre avec Jean Guéhenno, jusqu'à sa mort en 1964, il nourrit avec le Pandi Nehru une relation d'amitié et de complicité mutuelle. L'amitié se poursuivit avec Indira Gandhi, la fille et l'héritière politique de Nehru, aux côtés de laquelle Malraux s'engagea en 1971 lors de la guerre indo-pakistanaise pour le Bangladesh. André Malraux aimait l'Inde, écrit dans « Aimer encore », c'est le titre d'un livre, Sophie de Villemorin, qu'il accompagna au cours de plusieurs voyages. En 1974, vieilli, Malraux mourut le 23 novembre 1976, malade, fatigué, il éprouva la nécessité d'y faire un ultime pèlerinage afin de revoir, avant de mourir, les temples d'Ajanta, d'Ellora et les cavernes d'Elephanta. De l'Inde, il connaissait tous les dieux, toutes les philosophies, toutes les expressions transcendantes. Il avait tout compris en profondeur. Mais paradoxe, sur l'Inde, il n'a guère écrit, excepté dans les Antimémoires, 1967, comparativement à la Chine où il s'est peu rendu mais qui occupe une place prépondérante dans son œuvre. Le Japon l'a également séduit, mais il a fort peu écrit sur ce pays. Il est vital pour l'espace en français, le dialogue des cultures, de se passionner pour les relations entre un écrivain planétaire et un pays hors norme, l'Inde. Malraux a porté jusqu'à l'incandescence ce dialogue entre l'Inde et la France, entre l'Orient et l'Occident. Il faut l'en remercier pour suivre son ouverture sur le monde. La tentation de l'Orient. Malraux, en 1921, a 20 ans. C'est un autodidacte. Il a acquis lui-même sa culture générale. Je cite « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert », était son slogan. N'oublions pas que les trois textes d'extrême jeunesse étaient dédiés à Ganesh, le dieu hindou à tête d'éléphant, comme un totem. C'est déjà l'indice d'une curiosité pour l'Orient. Autour de 1910, à côté de spécialistes comme Grousset ou Guénon, Maurice Barrès se montra impressionné par la spiritualité indienne. André Gide, dès 1913, traduisit l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore. Rappelons les biographies de Ramakrishna et de Gandhi dues à Romain Rolland. Un mouvement d'avant-garde, le grand jeu de René Dommal et Roger et Gilbert Lecomte, fut le seul à s'intéresser de près à la métaphysique et à travers les écrits de Gurdjieff à assumer une dimension spirituelle nourrie de références à l'Inde. Dès 1921, année capitale, mariage notamment avec Clara Goldschmidt, l'écrivain Malraux va être le seul à centrer son œuvre autour de cet Orient qu'il visite plus ou moins, imagine parfois, transfigure toujours, écrit Jean-Claude Perrier. Après La Tentation de l'Occident, 1926, qui verra dialoguer un jeune intellectuel chinois avec son homologue français, suivront Les Conquérants, 1928, et bien sûr La Condition humaine, 1933, prix Goncourt, qui montreront une Chine en proie à ses premières convulsions révolutionnaires. La geste épique de Malraux, du Malraux leader révolutionnaire, compagnon de route du communisme, est en train de naître. Il voyage en Orient à la recherche d'œuvres d'art gréco-bouddhique, dont il organisera une exposition à la galerie de la NRF en 1931. Puis, la même année, il découvre l'Inde, Delhi, Bénarès, Calcutta. Mais il faudra attendre les livres sur l'art des années 50, puis surtout les anti-mémoires en 1967, pour que l'Orient et l'Inde réapparaissent sous sa plume. Un éléphant, sorte de texte bouddhique, vient en épigraphe des anti-mémoires tendre sa trompe au Ganesh de 1921. Le voyage, notamment en Inde, est l'occasion de prélever, de recueillir et d'engranger des signes pour approfondir le monde, comme le confie Joël Loher. Les romans de l'action chers au jeune Malraux, en fait, ouvrent sur les mondes de contemplation dont l'Orient est à cette époque le territoire. L'est-il toujours ? Les anti-mémoires, plus que les mémoires d'un homme d'action, et plutôt l'histoire de son âme, itinéraire à la recherche du lieu originel, symbolique, que l'Occident a bien du mal à retrouver. Malraux écrit dans ce texte « L'hindou se ressent comme agit dans un monde de commémoration, alors que malgré le péché, malgré le démon, malgré l'absurde, malgré l'inconscient, l'Européen se conçoit comme agissant dans un monde où le changement est valeur, où le progrès est conquête, où le destin est histoire. » Cette idée était déjà exprimée dans La Tentation de l'Occident. C'est que depuis qu'il s'est déchristianisé et que s'est ouvert l'âge moderne des scientifiques, l'Occident est entré dans un temps qui ne trouve plus son sens dans l'âme des hommes. Même si la référence directe à l'Inde est rare dans les romans de Malraux, on peut considérer que l'Inde est le véritable pôle de ces mondes de contemplation et de méditation qui se trouvent à l'orient de l'âme. Encore les anti-mémoires. L'éléphant est le plus sage de tous les animaux, le seul qui se souvienne de ses vies antérieures. Aussi se tient-il longtemps tranquille, méditant à leur sujet. On aura compris que ce qui oriente le sens des séjours de Malraux en Inde, ce n'est ni la géographie, ni la chronologie d'un voyage, ce sont les stations et les étapes d'un itinéraire initiatique. Malraux confie dans les anti-mémoires, je cite, « Les sculptures des grottes d'Ellora appartiennent pour moi au domaine des archétypes, du mythe, c'est-à-dire du sacré sous sa forme nocturne. » Pour Malraux, l'esprit occidental est à la fois hanté par la nostalgie du primitif et aussi coupé de l'origine. Il est certain en Inde d'avoir approché du secret du monde. Nulle part je n'avais éprouvé à ce point combien tout art sacré suppose que ceux auxquels il s'adresse tiennent pour assurer l'existence d'un secret du monde que l'art transmet sans le dévoiler et auquel il les fait participer. J'étais dans le jardin nocturne des grands rêves de l'Inde. Fin de la citation. N'oublions pas par ailleurs que dans la structure même des anti-mémoires, la place de ce centre est occupée par le récit de la visite dans la caverne hantée d'Éléphanta où l'absolu médite parmi les figures délivrées de l'impermanence et de l'illusion. Il est bon de rappeler ici que l'éléphant est non seulement l'emblème indien du commencement et de la fin, mais aussi au principe et au terme même de l'itinéraire de Malraux. On peut dire que le voyage en Inde est d'ailleurs, comme celui de Chateaubriand, dans « Itinéraire de Paris à Jérusalem », un pèlerinage. Je cite « Il semblait que je fusse appelé par un pèlerinage de Siva, Bénarès, Madura, Ellora, bientôt Éléphanta ». Fin de la citation. En vérité, on peut être tenté de lire dans la récurrente tentation qu'a exercée l'Inde sur Malraux le symptôme d'une crise très profonde qui est celle de toute la modernité. En s'inspirant de son œuvre tournée vers l'Orient, on peut s'interroger sur le continuum des grands pays, la France d'abord, la Russie, la Chine, l'Iran ensuite, avant de s'intéresser à des pays moins anciens. Pour s'édifier, la modernité occidentale a fait le deuil du divin, mais le sens du divin n'est pas essentiellement ce que Malraux retrouve en Inde, même si l'Inde est le lieu d'un surnaturel, toujours vivant et actif. En fait, en Inde, il retrouve originel et immémoriaux l'ordre et l'univers symbolique dont l'Occident moderne s'est coupé et qu'il a perdu. Malraux, en s'enfonçant dans l'obscurité sacrée d'Éléphanta, pénètre dans un espace souterrain où la représentation renonce à ses propres prestiges. Je cite « Dans l'obscurité de la grotte d'Éléphanta, cet instant est ce lieu de coïncidence parfaite entre le signe et la chose signifiée, sont l'instant et le lieu d'une révélation, le secret du monde. » tout entier enveloppé dans l'aura de sa manifestation et transmis sans cependant être dévoilé, écrit-il encore. Le professeur Joël Loher confie de son côté ce qui suit. Je cite « Dans l'effort d'approfondissement de l'énigme fondamentale de la vie qui garde son voyage en Orient, dans la réflexion sur le visible et l'invisible que Malraux engage en Inde, cette adjonction finale du chant et de la musique n'est pas un ajout adventice dont on pourrait aussi bien faire l'économie. » Malraux, fin de la citation, n'a-t-il pas préparé leur place et signifié leur importance en déclarant à l'ouverture des Antimémoires que « la vie semblable au dieu des religions disparues lui apparaît parfois comme le livret d'une musique inconnue ». Souvenons-nous enfin qu'au début de son livre, « La corde et les souris », Malraux déclare à Senghor, quelle douceur cet homme Senghor, qui est un héros sans Gandhi, lié à une culture indigène sans Veda, qu'il avait eu le sentiment que pour Nehru, la musique était un art plus important même que la sculpture des grands temples de l'Inde. Le chant et la musique permettent de pallier les insuffisances des autres systèmes de représentation et les défaillances des discours organisateurs du sens. Pour Dilep Padgankar, qui a connu personnellement André Malraux, la vie et l'œuvre de l'éminent écrivain témoignent de cette singulière angoisse. Comment décrypter et déjouer les passes d'illusionnistes du temps et de la mort ? L'objectif clair de Malraux, c'est la transcendance. Au sujet de ses racines, il confia à François Mauriac « Peut-être suis-je essentiellement un esprit religieux sans foi. » Malraux trouvait grandeur et raffinement dans l'Inde éternelle, qui n'était pas nécessairement pour lui que l'Inde ancienne. Il les percevait tout autant à Bénarès qu'à Bombay, en Bouddha et en Gandhi, dans la caverne d'Elephanta et dans la Nouvelle Delhi, dans la statuaire d'Ellora et dans les versets de la Bhagavad Gita, et tout autant dans le combat mené par l'Inde pour sa libération, puis aussitôt après l'indépendance, dans l'œuvre de fondation de la nation et dans la personnalité de Jawaharlal Nehru. L'Inde le tint envoûté parce qu'elle déploie plus largement les ailes nocturnes de l'homme et aussi parce que, loin de nous, dans le rêve et le temps, l'Inde appartient à l'ancien Orient de notre âme. Malraux, à sa façon, est un guide soucieux de l'humanité et des relations essentielles entre la France et certains pays clés de ce monde. Quels sont-ils, justement, ces pays qui peuvent donner à la France et recevoir de la France ? Il serait bon de s'en soucier et de multiplier les liens, les relations avec un groupe de pays qui sont au cœur du devenir du monde. Grâce à Malraux et quelques autres penseurs, nous entrons vraiment dans le vif du sujet. Malraux avait compris le poids de l'Inde. Notons les relations particulières de l'Inde et de l'Égypte, toutes deux dominées à un temps par les Anglais. L'approche française fut différente et appréciée. N'y aurait-il pas une voix française tout à fait particulière et originale ? Pour Malraux, l'occidental, pénétré d'un sens profond de la nostalgie, une pensée qui avait résisté, il parle de l'Inde, à 17 conquêtes et à 2 millénaires, ne pouvait qu'être envoûtante, manifestant les liens vivants entre les bruits et les lumières de l'Inde d'aujourd'hui et son passé qui remonte jusqu'à l'aube des civilisations. Nulle part, Malraux n'éprouva cela plus intensément qu'à Bénarès, où il entendit la grande prière de l'Inde. En Inde, il a vécu l'autre pôle de notre vie, de sa vie. La religion ne l'intéressait pas vraiment. Il cherchait à saisir le sacré derrière le religieux, le spirituel derrière le sacré et l'ironie derrière le spirituel. Pour lui, les hymnes védiques, les sutras bouddhistes et les versets de la Bhagavad Gita, toutes ces manifestations représentaient à ses yeux l'énonciation la plus claire de l'énigme de l'existence de l'homme et de son destin. Pour les Indiens, nul progrès de l'esprit ne répondra aux questions posées par l'âme, alors que l'Occident tente moins de répondre à ces questions que de les détruire. Mais entre les diverses parties, le dialogue doit être entretenu. Or, c'est l'enseignement de Malraux et des meilleurs esprits. Le dialogue ne pourra se poursuivre avec le reste du monde qu'en sachant poser les questions fondamentales. Malraux n'a jamais cherché à opposer une civilisation à une autre. Aucune n'est intrinsèquement supérieure, mais il faut essayer de trouver des réponses aux principales interrogations. Il n'aurait jamais pu dialoguer avec Hitler, il ne se faisait aucune illusion sur Staline. Malraux l'a impressionné, mais il ne nourrissait pas de sympathie pour lui. Ce fut assurément une autre histoire pour De Gaulle et Nehru. Il aurait bien sûr aimé rencontrer Gandhi, et l'on peut penser qu'un entretien entre Malraux et Ramakrishna Paramahansa ou Ramana Maharshi lui aurait semblé plus stimulant que tout palabre avec l'un de ces prêcheurs du dimanche de la télévision américaine. N'oublions pas que l'évidence fondamentale de l'Occident, c'est la mort, alors que l'évidence fondamentale de l'Inde, c'est l'infini de la vie dans l'infini du temps qui pourrait tuer l'immortalité. Toujours à Ellora, Le jardin nocturne des grands rêves de l'Inde, ce désir nostalgique d'immortalité frappe très vivement Malraux. Pour Malraux, le symbole même de l'Inde, c'est A éléphantale, la triple tête gigantesque de Siva. Je cite, il y a dès le premier regard un chef-d'œuvre de la sculpture, il y a Siva, la caverne, le sacré, ce masque aux yeux fermés, pensons à la prière au masque de Sangor. Sur la coulée du temps comme sur un chant funèbre, pensons aussi à ce grand poète de la négritude Aimé Césaire qui lutte pour la vie actuellement. Malraux détecte dans le plaidoyer de Gandhi en faveur de l'Ahimsa, c'est-à-dire cette résistance non violente, et singulièrement dans la marche pour le sel, celle de Gandhi, des échos et résonances des épopées perdues, les paroles, les gestes du Mahatma Gandhi émanent de mythes et de légendes distants. Pour Malraux, Gandhi de son vivant a pris place aux côtés des révolutionnaires légendaires. Après lui, Nehru sut répondre aux besoins les plus urgents, faire un État juste avec des moyens justes, faire l'État laïque d'un pays religieux, atténuer la pauvreté, lutter contre le système des castes, battre en brèche les forces du fanatisme religieux. En conversation avec Nehru, Malraux se trouvait à la fois en face de l'Inde éternelle et d'une Inde parente de ce que sont dans notre mémoire la France des soldats de l'an 2, les États-Unis de Washington, la fin d'un temps exemplaire de l'histoire, et Nehru de lui dire « il faut maintenant que l'Inde lutte contre elle-même ». Et Malraux de poursuivre sorte de conclusion pour cette première émission, « l'Inde est en train de modeler sa civilisation à elle, sans connaître sa destinée, mais cela n'est pas grave, l'Europe non plus ne sait pas quelle est sa destinée. L'Inde avance dans l'obscurité à la lueur de la torche qu'elle porte. En Inde, comme en France, les cathédrales de l'esprit n'ont pas dit leur dernier mot. Je vous conseille comme bibliographie André Malraux et la tentation de l'Inde, Gallimard, ambassade de France en Inde, 2004. André Malraux, œuvre complète chez Gallimard, bibliothèque de la Pléiade. Sophie de Villemorin, Aimer encore, donc elle parle d'André Malraux de 1970-1976, Gallimard, 1999. Jean Lacouture, André Malraux, Une vie dans le siècle, au seuil, 1973. Et Jawaharlal Nehru, donc je dis bien Jawaharlal Nehru, La découverte de l'Inde, Philippe Piquet, 2002. Voilà pour la première émission, je vous remercie.